France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
La dernière fois que je suis allée dans un musée, j'ai été fortement agacée. Pas par l'exposition, non, mais par les visiteurs, tous accrochés à leur téléphone, à prendre des photos du moindre tableau, de la moindre installation. Mais pourquoi prendre des photos dans un musée? À qui les montrer après? Est-ce que c'est le genre de cliché qu'on re-regarde dans son canapé le soir en se disant « Ah, vraiment, c'est pas mal Van Gogh ». Pourtant, je me suis demandé, est-ce vraiment mieux de ne rien en garder? Est-ce vraiment mieux de regarder une œuvre les yeux dans les yeux?
Nous allons entrer dans un musée. La seule chose que je vous demande, c'est du silence. Ouais !
On avait dit pas de photo ! On avait dit pas de photo !
On ne photographie pas le personnel.
Yeah, why don't you take a picture ?
Ok. Click.
Monsieur, pas de photo.
C'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé. Pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Est-ce que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier. Pas de raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en tirant pété. Et c'est pas rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. Est-ce que c'est beau, la photographie? Bougeons plus, l'amour va passer. Y'a pas de raison pour qu'on oublie sa petite gueule sur l'instantané.
Bah, bougeons plus.
Bonjour Sébastien Appiotti.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication au CELSA Sorbonne Université. Vous travaillez sur la communication, la muséologie et la sémiotique sociale. Et vous êtes l'auteur, ça tombe bien pour nous, de prendre des photos au musée quand les visiteurs gardent l'œil sur l'objectif, disponible aux éditions MKF. Alors, vous allez tout de suite me répondre, Sébastien Appiotti, mais pourquoi est-ce qu'on prend des photos dans un musée ?
Tout d'abord, Géraldine, merci de votre invitation. Effectivement, cette question, elle a l'air simple, voire simpliste. Mais c'est en réalité un impensé au sein de notre société. Voilà, oui, on a quand même en grande majorité tout et tous un smartphone dans nos poches. Et pourtant, on ne s'interroge, je dirais, pas souvent sur ce pourquoi on fait des photos de choses aussi triviales que son chat, son chien ou sa liste de courses. Donc moi, c'est vrai que mon cas d'étude, ça a été de s'intéresser à pourquoi, quand on visite une exposition ou un monument historique, voire même quand on visite telle ou telle destination touristique, on fait des photos. Et c'est vrai que ça m'a permis un petit peu, y compris moi-même en tant que chercheur, de m'extraire d'un certain nombre de stéréotypes et d'idées reçues par rapport au sens qu'accordent les visiteurs aux images qu'ils produisent avec leurs appareils photo.
Parce que vous, par exemple, aussi, vous êtes agacé quand vous voyez des personnes qui prennent des photos dans une exposition. Parce qu'on peut quand même dire qu'il y a deux publics. Dans ce genre de cas. Alors, il y a plusieurs publics dans un musée. Il y a les enfants, il y a les visiteurs puristes, il y a simplement les curieux. Voilà, il y a ceux qui accompagnent quelqu'un. Et puis maintenant, il y a quand même ceux qui prennent des photos et ceux qui n'en prennent pas et qui sont agacés par ceux qui en prennent.
Exactement. Et donc, pour parler de mon cas, puis après, j'embrayerai sur un certain nombre d'autres types de visiteurs. C'est vrai que moi, je suis toujours, je dirais, un peu dissonant sur cette question. C'est-à-dire que je fais beaucoup de photos, y compris dans des expositions. Et puis, à la fois, je suis agacé par un certain nombre de comportements. Quand, par exemple, j'ai envie de contempler telle ou telle œuvre, de faire le tour et que je ne peux pas. Au final, vous voyez, ce balancier ou le fait d'être nuancé par rapport à cette question, c'est la majorité de ce que vous disent les visiteurs quand vous les interrogez là-dessus. Alors, c'est vrai que moi, dans les recherches que j'ai pu mener au Grand Palais, par exemple, ces dernières années, ou au Palais des Beaux-Arts de Lille, je me suis aussi intéressé, j'ai aussi discuté avec des visiteurs qui ne prennent pas de photos pour comprendre pourquoi ils n'en prennent pas. Voilà. Et inversement, pourquoi ils en prennent. Et sur ce point-là, effectivement, il y a des choses qui ont été assez surprenantes, hein, qui sont ressorties. Notamment, bah, on prend principalement des photos quand on éprouve une émotion esthétique, hein, une sorte de choc face à une œuvre. Et on a envie de, finalement de capturer, vous voyez, ce moment, cette émotion que l'on ressent par une photographie. Il y a d'autres éléments qui sont plutôt liés à, on va dire, des stratégies de reconnaissance. Je reconnais que cette œuvre, la Joconde par exemple, ou un Van Gogh que vous citiez tout à l'heure, je la reconnais comme étant consacrée par l'histoire de l'art et je la vois enfin en vrai, je vais la prendre en photo. Ou alors je la reconnais médiatiquement, c'est-à-dire, tiens, c'est l'affiche de l'expo, pourquoi pas la prendre en photo. Il y a un autre élément qui paraît peut-être encore plus évident, notamment sur l'associé aux jeunes générations, c'est la logique du partage. C'est-à-dire, je prends en photo pour partager mes proches ou pour partager sur les réseaux sociaux.
Mais là, est-ce qu'il n'y a pas une logique moins d'intérêt pour l'œuvre que de démonstration du fait qu'on y était ? Et donc là, en fait, l'œuvre devient presque secondaire, d'où cette deuxième interrogation, Sébastien Appiotti. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer le fait qu'on prenne une photo de l'usage, en fait, qu'on en fait? Est-ce que c'est pour montrer qu'on y a été? Est-ce que c'est pour en garder un souvenir? Et alors là, moi, j'ai plein de questions qui me viennent parce que je me demande vraiment, parmi peut-être les visiteurs que vous avez interrogés, est-ce qu'on regarde les photos de tableaux qu'on a prises le soir dans son canapé?
Alors oui, ça, c'est une très bonne intuition que la vôtre, puisque effectivement, une même photo, on va dire par exemple un cadrage serré sur un tableau, peut être investi de plein de manières différentes par un ou plusieurs visiteurs. Un même visiteur, par exemple, peut faire 2, 3, 4 photos et avoir des usages différents, cumulatifs. Par exemple, un visiteur va avoir envie de faire la médiation à distance de telle ou telle exposition pour sa grand-mère ou son grand-père qui est malade. Un de vos auditeurs sur Twitter a indiqué, par exemple, j'imprime les photos quand je visite une exposition pour les donner ensuite à ma maman. Voilà, je trouve que c'est un bon usage.
C'est une bonne raison de faire des photos.
Il y a d'autres éléments qui sont plus en lien avec le mémoire, le souvenir, l'archive. Une des visiteuses avec lesquelles j'avais fait un entretien m'a décrit ces photos comme étant des flacons de souvenirs dans lesquels elle aimait bien se replonger.
C'est beau.
De temps à autre. Sébastien, à nouveau, un de vos auditeurs sur Twitter, a indiqué...
Vous avez fait donc un petit sondage sur Twitter.
Exactement. J'ai fait un sondage au doigt mouillé, ce qui n'est pas du tout scientifiquement, mais ça m'a permis d'avoir des verbatims. Nous dit, je les archive, je fais des recherches sur certaines œuvres, je m'en sers pour mes activités. Ce sont aussi des repères mémoriels et je les consulte parfois des années plus tard.
Ah oui.
Donc ça arrive, mais c'est vrai que ce n'est pas, il faut être honnête, la majorité des usages qui sont faits de ces photographies d'œuvres ou d'expositions qui, effectivement, la plupart du temps, finissent, on va dire, totalement inertes dans la mémoire du téléphone ou alors dans le cloud de tel ou tel visiteur. C'est donc, pour moi, le principal élément qui se joue, il se joue vraiment au moment de faire la photographie. En fait, on peut vraiment ici s'interroger sur pourquoi je fais la photographie et quel rôle joue l'acte photographique dans le fait de recevoir une œuvre, son message, dans le fait, par exemple, ce que permet l'appareil photo. Je peux zoomer sur les détails, par exemple. Je peux prendre en photo l'œuvre, mais aussi le cartel, me constituer mon propre catalogue d'exposition que je peux consulter plus tard. J'ai même eu des exemples de je prends en photo et après je fais des après-midi diaporamas dans les EHPAD pour mes collègues seniors qui ne peuvent plus se déplacer. Donc on a vraiment une panoplie, on va dire, d'usages sociaux possibles de la photographie. Et c'est vrai qu'à première vue, quand on voit 1, 2, 3, 10 personnes photographier le même élément, on peut se dire que ça nous gêne, que c'est un peu un comique de répétition, mais en réalité, c'est plus complexe.
Et puis, il y a aussi Internet, c'est-à-dire que les reproductions, il y a aussi la dimension de possession, d'appropriation de l'œuvre. Les reproductions sur Internet, il y en a des milliers. Si je tape la Joconde, je peux tomber tout de suite sur une image hyper bien, une photo hyper belle de la Joconde. Pourquoi ça changerait quelque chose de l'avoir, moi, sur mon téléphone ?
Eh bien, parce que, en fait, on est vraiment ici dans des logiques, je dirais, entre l'émotionnel et le cognitif. Ça participe, en fait, de l'appropriation que je vais pouvoir faire de l'œuvre. Et d'ailleurs, sur cette question de l'appropriation, il y a, je dirais, deux grands courants qui se sont opposés pendant plusieurs années. Un premier courant, justement, qui décrit la photographie comme étant un vecteur d'appropriation des œuvres, un moyen de démocratiser, justement, l'accès au musée et l'accès au sens dans le musée, qui passe pas forcément par l'intellect, mais qui peut passer aussi par le geste, par l'émotion, par le ressenti. Et d'autre part, effectivement, un certain nombre de critiques, de visiteurs, mais aussi de professionnels, voilà, du monde muséal, qui considèrent que la photographie est un obstacle à la rencontre directe avec l'œuvre, au choc, à ce choc esthétique qui était cher à André Malraux, et donc une pratique populaire au sens négatif du terme. Et donc là, on a tout un tas d'images qui nous viennent en tête, de connotations liées à la distraction, le fait qu'elle soit une pratique récréative, une pratique un peu régressive, une pratique narcissique.
Et une pratique aussi populaire, où on voit bien en fait qu'est réinjectée du mépris de classe à l'égard de ceux qui vont prendre des photos dans les musées. Parce que cette question en fait, qui semble anecdotique de pourquoi on prend des photos dans le musée, vous l'avez dit Sébastien Piotti, ça soulève quand même deux grands enjeux. Le rapport qu'on a à l'image dans nos sociétés, les images qui s'accumulent, qu'on prend et dont il faut dissocier l'usage, mais aussi le rapport qu'on a à la culture, au musée, qu'est-ce qui serait une bonne manière d'être dans un musée. C'est ça, en fait, l'enjeu là, de la photo dans le musée.
Effectivement, je suis d'accord avec vous. En fait, la photographie, pour moi, ce n'est que le sommet de l'iceberg qui cristallise, on va dire, un certain nombre de tensions, et des tensions qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus anciennes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Premièrement, c'est qu'effectivement, c'est en fait l'invention du musée, fin 18e, début 19e, on va dire du musée ouvert, à un public plus large, un public qui vient aussi avec ses pratiques, avec ses habitus, et qui ne sont pas forcément du goût de tout le monde. Prosper Mérimée, par exemple, en 1871, se désole, je cite, qu'une foule de bonnes, d'ouvriers, de soldats viennent se promener dans la galerie par pur désœuvrement. On a aussi des éléments à la même époque, des personnes qui se plaignent à la même époque que les ouvriers ramènent dans les galeries du Louvre la poussière des usines. Et donc effectivement, cette question du mépris de classe, elle est essentielle. Aussi parce que le musée, tel qu'il est conçu vraiment dans son ADN, est un élément en fait qui permet de concrétiser le choc. Avec l'art, certes, mais aussi le choc, la rencontre, le brassage entre des classes supérieures et, on va dire, les classes laborieuses. Et donc ça passe par différents moyens qu'on a toutes et tous rencontrés au moins une fois. L'agent d'accueil et de surveillance, qui est chargé de faire respecter l'ordre dans la salle, le règlement de visite. Et ces éléments-là, qui peuvent paraître anecdotiques, en fait, portent en eux, intrinsèquement, la vision de ce que doit être un bon visiteur et un bon comportement de visite. Et donc, dans cette vision normative du bon comportement, est-ce que, par exemple, un bon visiteur, c'est celui qui va contempler l'œuvre silencieux, qui se recueille devant l'œuvre ? Ou bien, au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir se permettre de parler à haute voix, de visiter l'exposition, par exemple, sans aucun vêtement, de courir dans l'exposition.
Aucun vêtement, c'est-à-dire nu ?
Nu. Les visites nudistes ont été faites par le Palais de Tokyo à plusieurs reprises.
Ah. Voilà, je ne savais pas.
Je n'invente pas.
J'étais pas sûre d'avoir bien compris sans aucun vêtement.
Si, tout à fait. Non, c'est pas un lapsus. dans ces choses, on va dire cette suite d'idées-là, est-ce que, au final, des pratiques telles que prendre des photos avec son smartphone, est-ce que ça a sa place au musée ou pas?
Ce qu'on apprend aussi dans votre livre, Sébastien Piotti, hormis le fait qu'on puisse visiter donc nu des expositions, c'est que cette idée quand même d'un jugement esthétique qui ne repose que sur la vue, c'est quelque chose qui est complètement fabriqué. C'est-à-dire qu'avant, dans un musée, on pouvait toucher des œuvres. Et ça, c'est quelque chose qui a changé justement à cause de la hausse de fréquentation et de la diversification du public.
Tout à fait. Et ça, c'est encore une fois, ça fait partie de l'impensé sur cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on visite une exposition, principalement avec le regard, très peu avec les sens, même s'il y a eu différentes tentatives ces dernières années de faire une médiation polysensorielle, hein, notamment par les odeurs, ou en faisant de la médiation, je sais pas, en faisant voilà, d'autres activités que le regard en tant que tel, en mettant des reproductions de statues, par exemple, à toucher. Mais effectivement, c'est une construction sociale. Et cette construction sociale, elle débute au 19e siècle, qui est vraiment un siècle de retournement complet de la sensorialité dans la société au profit du regard. Le regard qui vraiment sert la modernité, la révolution industrielle. Le regard, c'est aussi le regard outillé par le microscope, par exemple, puis par l'appareil photo. Et donc, cette primauté accordée à l'œil, c'est vrai qu'elle relègue dans le champ de la barbarie, dans la sphère de la barbarie, les autres sens. C'était pas le cas avant.
Alors avant, ça se passait comment, par exemple?
Avant,
on rentrait dans un musée, on pouvait tripoter une statue. Vous voyez, déjà, déjà j'utilise un vocabulaire dévalorisant pour le fait de toucher. On pouvait donc toucher une statue, toucher une toile. Qu'est-ce qui était possible? On pouvait avoir un sens de visite qui était complètement libre, c'est ça?
Alors, ce qu'il faut bien que vos auditeurs comprennent, c'est que on était déjà dans un contexte de visite totalement différent. Pourquoi? Je vais prendre un exemple historique qui a été traité par Constance Claessen, qui est l'Ashmolean Museum à Oxford, qui est un des plus vieux musées du monde. Et ce que Constance Claessen a découvert, c'est qu'effectivement, les visiteurs de ce musée pouvaient toucher, déplacer et sentir les œuvres, ce qui aujourd'hui nous paraît totalement fou. Mais c'était le cas. Alors, c'était le cas aussi, il faut voir les conditions de visite à l'époque. Pour un nombre très restreint de visiteurs, une élite, et c'était le cas aussi dans d'autres contextes où effectivement les collections, nos collections nationales en France sont essentiellement des collections royales, des collections issues de la noblesse et du clergé. Au 19e siècle, on a à la fois la primauté du regard qui apparaît, mais aussi pour le musée, l'explosion démographique de la fréquentation et la diversification sociale des profils de visiteurs, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout d'un coup, les conservateurs de musées, qui étaient habitués, on va dire, à travailler avec, on va dire, des visiteurs issus de l'élite, des élites, se retrouvent effectivement avec des ouvriers, des bonnes, des bourgeois.
Donc derrière l'argument de conservation du patrimoine, de peur d'abîmer les œuvres, en fait, qui semble être un seul prétexte, en fait, il y a une cause beaucoup plus profonde, c'est en fait du jugement de classe. On peut le dire comme ça ? Ou est-ce que vraiment, on s'est dit, là, il faut qu'on limite l'accès à ces œuvres directement?
C'est les deux. C'est les deux, puisqu'en fait...
Mais pourquoi les mains des élites n'abîmaient pas les œuvres et après, pourquoi les mains de tous pourraient les abîmer?
Parce que c'est vraiment une question de...
De fréquence?
C'est une question de fréquence et une question, pour le coup, de conservation des œuvres. Mmh. C'est vraiment démagogique de ma part de dire le contraire. Mais... Également, démagogique de ma part, de dire que ces dispositifs sont totalement neutres. Ils ne sont jamais neutres. Quand on installe des garde-fous, des vitrines, qu'on met une distance par rapport aux œuvres, évidemment, c'est aussi qu'on considère, par exemple, que telle ou telle catégorie de visiteurs vient avec sa non-éducation, sa non-connaissance peut-être des codes de visite qu'on attend d'eux au musée. Et donc... pour se prémunir de ça, on va effectivement installer une distance. Et dans le cas de la photo, par exemple, on va interdire la photo si on considère que ça peut mettre que l'intégrité des œuvres peut être menacée.
L'œuvre d'art n'est pas dans l'instant. Parce que quand vous êtes en train d'admirer une statue romane, elle est à la fois dans le temps où elle a été créée, puisque vous ne la mettez pas au 18e, dans votre temps à vous qui l'admirez, et dans un temps de futur, puisque vous la ressentez comme susceptible d'être admirable dans 100 ans. L'œuvre d'art est hors du temps vécu. Par l'art, elle parle de ce langage que je précise beaucoup trop. Elle parle au sentiment de la mort. Tout ce qui est non-sujet, parle au sentiment de la mort.
André Malraux le 5 décembre 1979 à propos de l'œuvre d'art. Vous en avez parlé, hein, Sébastien Appiotti, d'André Malraux. Est-ce que André Malraux n'idéalise pas un petit peu la rencontre avec l'œuvre d'art qui devrait être hors du temps, alors que précisément un musée orchestre cette rencontre-là dans un temps présent et selon certaines conditions?
C'est toujours le paradoxe en fait avec André Malraux, c'est-à-dire que en France, c'est un totem, donc c'est toujours difficile de s'y attaquer. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a cette vision effectivement assez normative de la rencontre avec l'œuvre d'art, de ce fameux choc esthétique.
Élitiste en plus.
Et extrêmement élitiste. Et qui en fait se ressent aussi dans les politiques culturelles d'André Malraux, c'est-à-dire 1959, c'est la création du ministère des Affaires culturelles et la volonté principale d'André Malraux, ce qui va vraiment guider toute son action finalement, innerver son action, c'est de mettre à disposition du plus large public possible ce qu'il appelle les chefs-d'œuvre de l'humanité. Et quand on dit que telle ou telle œuvre ou tel artiste ou courant artistique est un chef-d'œuvre de l'humanité, effectivement, ce n'est pas sans poser question.
Alors, vous avez parlé, Sébastien Appiotti, justement, et je voudrais qu'on revienne là-dessus, en fait, sur les conditions de rencontre avec les œuvres. Alors, il y a la sélection des œuvres, mais il y a aussi le parcours. Il y a les vitrines, il y a les petits panneaux d'indication, il y a les cartels. Est-ce que cette histoire, en fait, de la photo dans les musées, c'est d'abord aussi une histoire des règlements, en fait, de bienséance dans un musée? Et quelle est cette histoire? Est-ce que c'est l'histoire d'interdit ou d'assouplissement, en fait?
Alors, effectivement, le règlement du musée, c'est ce qu'on pourrait qualifier de la loi intérieure du musée. Et il y a eu effectivement, je dirais, beaucoup de tâtonnements sur ce point-là, et depuis peut-être plus longtemps qu'on ne peut l'imaginer à première vue. Par exemple, Arnaud Bertinet, qui est un historien spécialiste des musées sous Napoléon III, a trouvé trace d'une interdiction de photographier au musée du Louvre dès 1866. Interdiction de photographier et de copier à une époque où effectivement il observe déjà une augmentation exponentielle du nombre de copistes. Et donc là on met les peintres copistes et les photographes dans un même panier, on va dire. Et effectivement, alors le XXe siècle, lui, ça va être plusieurs phases. Grosso modo, on va aller vers une libéralisation progressive de la pratique, en même temps qu'elle se démocratise. Fin 19e, par exemple, pour donner un repère, c'est aussi l'invention et l'apparition de la marque Kodak, avec son fameux slogan « Vous pressez sur le bouton et nous faisons le reste », ce qui a donné lieu plus tard aux appareils photo jetables, c'est le même principe. Avec, effectivement, plusieurs tentatives de l'État pour réguler ces pratiques. Par exemple, 1919, on se dit pourquoi pas taxer les pratiques. C'est aussi une manière de les réguler.
Donc par exemple, en 1919, si je viens avec mon appareil photo, objet qui n'était peut-être pas non plus à portée de tout le monde. J'étais taxé sous forme d'amende ou je devais demander une autorisation?
Une taxation, effectivement, un droit à photographier, un droit même plus largement à copier. C'est-à-dire dessiner, peindre, prendre une photo, prendre une vidéo, est soumis effectivement à une redevance. Cette taxation-là, on différencie deux éléments, c'est-à-dire d'une part la copie à usage privé, donc c'est-à-dire vous et moi, on va dans un musée. Dès 1959, cette pratique-là devient gratuite au musée. Des pratiques professionnelles de la copie qui sont toujours soumises à taxation. Alors, je fais un bond dans l'histoire.
Allez-y.
79, on a un arrêté du ministère de la Culture concernant les règlements intérieurs, où on différencie d'une part les collections permanentes où la photo est autorisée des expos temporaires où la photographie est interdite, sauf mention contraire. Et on arrive à 2014 avec un vrai changement qui est initié par le ministère de la Culture avec la charte « Tous photographes ». Et qui pose là vraiment, alors c'est un an après le mariage pour tous, n'y voyez aucun lien, mais là, tous photographes, ne serait-ce que le titre, c'est vrai, je vous vois sourire, il interroge en fait. Est-ce que par exemple, ça veut dire que tous les visiteurs désormais devraient être photographes au musée? Effectivement, on peut se poser la question.
Je souris parce que c'est quelque chose aussi d'assez malin. C'est-à-dire qu'en 2014, les smartphones sont beaucoup plus... la plupart des gens ont des smartphones. Il y a des téléphones, il y a des photographes, je veux dire, des appareils photos sur les téléphones. Donc effectivement, on est tous photographes, mais c'est une manière presque paradoxalement d'inciter ce à quoi, en fait, on avait été un peu rétif auparavant.
Tout à fait. Et c'est pour ça, peut-être, que je me permets d'insister sur 2014, parce que pour moi, c'est un changement profond de paradigme et de prise de position, en fait, du ministère de la Culture et de sa ministre Fleur Pellerin. Et en fait, ça arrive dans un contexte aussi où la photo est interdite par ailleurs dans des institutions phares françaises. Hein, par exemple, au Louvre, de 2005 à 2007, dans ces espaces les plus visités, à savoir la galerie Apollon et les salles de peinture du premier étage, dont la fameuse Mona Lisa, et surtout au musée d'Orsay de 2010 à 2015. La photo a été totalement interdite. Donc c'est vrai que c'est dans ce contexte-là aussi que le ministère... par un processus de réunion de travail qui a mêlé, on va dire, plusieurs acteurs, à la fois services du ministère, des institutions, mais aussi des chercheurs, des associations comme la Fédération des sociétés d'habits de musée en France. Ils vont se mettre autour de la table, ils vont effectivement mettre en place cette fameuse charte tous photographes qui met vraiment de façon assez synthétique, face à face, les droits et les devoirs du visiteur, mais aussi de l'institution. Par exemple,
il y a plusieurs articles. Il y a quoi comme article?
Alors, on est vraiment sur des articles qui peuvent paraître bateaux, mais qui facilitent un peu la tâche quand même des agents de sécurité. Par exemple, quand on prend des photos au musée, c'est sans flash et sans perche à selfie. Alors là aussi, on est en 2014. Depuis, la mode des perches à selfie, Dieu merci, est un peu retombée. Et encore que. Mais c'est vrai que du coup, il y a une attention particulière qui est portée aux conditions de la photographie.
Donc au matériel qu'on pourrait avoir.
Au matériel, par exemple, on visite pareil. Hein, on n'apporte pas son trépied pour photographier. Ou alors, on demande une autorisation spéciale. Pourquoi ? Parce que cette question-là du confort de visite partagé pour tous... y compris pour celles et ceux qui ne photographient pas, est vraiment essentiel. De l'autre côté, l'institution, elle doit s'engager effectivement à proposer aux visiteurs une signalétique plus claire. Pourquoi c'est essentiel ? Dans une enquête que j'ai menée l'année dernière auprès de visiteurs donc du Palais des Beaux-Arts de Lille, il ressort en fait que la majorité des visiteurs ne savent toujours pas s'ils ont droit de photographier ou pas, totalement dans les espaces du musée, ou bien si ça varie en fonction de l'œuvre, ou bien pas du tout. Il y a toujours un flou. Et il y a 3-4 ans, quand j'ai fait mes terrains de thèse au Grand Palais, à Paris, c'était également le cas. C'est-à-dire que j'ai interrogé des visiteurs qui me disaient « j'ai pas fait de photo parce que je pense que c'est interdit », ou bien au contraire « j'en ai fait ». Mais,
parce que j'ai rien vu.
Mais sous le manteau, parce que j'ai rien vu, donc je sais pas si c'est interdit, donc il y avait un petit côté transgressif pour certains d'entre eux. Voilà. Et donc sur ce point-là, c'est vrai que par exemple, il y a, je pense, beaucoup de progrès à faire face à ce régime, en fait, légal. Qui n'est pas clair, en fait, pour les visiteurs.
Qui n'est pas clair, et ce qui n'est pas clair aussi, c'est cette notion de confort de visite. C'est quand même une notion qui est extrêmement subjective. Certains vont être agacés par le fait que des gens stationnent devant des œuvres pour faire des photos, moins par ceux qui stationnent juste en contemplant l'œuvre. D'autres vont être agacés que d'autres les poussent pour aller vite dans la visite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça, c'est une notion qui a été élaborée par ces règlements-là des musées, ou même par l'histoire, en fait, à travers différents usages, cette notion de confort de visite qui me semble être quand même une notion assez fluctuante.
Oui, c'est ce qu'on recherche, on appelle une notion parapluie, en fait, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment labile, suffisamment neutre et vide de sens, en fait, pour qu'on puisse y accoler ce que l'on veut derrière. Alors, par exemple, je vais reprendre mon exemple du Louvre, un de mes préférés, qui interdit la photo en 2005, une interdiction partielle, donc. Je cite le Louvre, l'augmentation très nette de la fréquentation. Face à l'augmentation très nette de la fréquentation, le musée a fait le choix d'une mesure d'interdiction partielle liée aux zones les plus fréquentées où les prises de vue engendrent de très nombreuses doléances du public. Et juste après arrive effectivement cette question du confort de visite. Et le confort de visite, effectivement, j'ai envie de dire, tout dépend qui a les clés du règlement de visite. Qui écrit le règlement de visite ? sur cette question du confort de visite. Est-ce qu'on entend par là, effectivement, une question d'emprise spatiale ? Auquel cas, c'est plutôt lié à la jauge, vous voyez, à la jauge de visite. Le Louvre, pour à nouveau les citer, est actuellement en pleine réflexion.
Oui, parce que la fréquentation des musées a explosé quand même, il faut le dire.
A explosé. Alors, il y a eu un trou d'air avec le Covid, mais là, on est les chiffres 2022, en tout cas, les premiers chiffres qui nous remontent montrent qu'on est... c'est reparti vraiment à la hausse. Et par exemple, le Louvre réfléchit actuellement à une jauge à 8 millions de visiteurs par an, contre 10 avant le Covid. Donc, c'est vrai que cette question-là, la surfréquentation, elle est essentielle. Et on ne peut pas comprendre, en fait, ce pourquoi on est autant gêné par les visiteurs qui font des photos, ou inversement, par les visiteurs qui sont plantés pendant 10 minutes le nez devant l'œuvre, si en fait on ne le relie pas à un contexte qui est pour certains musées et certaines expositions, c'est pas le cas de toutes, d'une hyper-fréquentation. Et cette hyper-fréquentation, elle a vraiment des effets très nets sur, en fait, le bien-être au musée.
Donc, vous avez parlé de l'emprise spatiale. Il y a quoi d'autre, en fait ? Donc, il y a le fait, effectivement, que ce soit plus ou moins lent. Le fait qu'on
puisse... Les flux, oui, tout à fait. Il y a la question du flux de visite. Il y a la question... Je vais voir une exposition. Certaines sont très chères, 15 euros et plus le billet, quand on n'a pas de réduction. Est-ce que je vois les œuvres ? Tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas deux, trois rangées de visiteurs devant moi ? Est-ce que j'ai accès aux textes de médiation ? Est-ce que les cartels sont écrits suffisamment gros, par exemple ? J'ai des problèmes de vision ? Ou les cartels sont trop bas, trop haut ? C'est des questions qui peuvent paraître très triviales. Mais quand on conçoit une exposition, on la conçoit pour un public.
Et puis, c'est pas trivial au regard de ce qu'on entend comme étant une bonne réception d'une œuvre d'art, la production d'un bon jugement esthétique, surtout qu'on a vu que ces règlements quand même de comportement dans un musée, en fait, ils sont à la fois flous, mais ils sont quand même extrêmement contraignants. Notre manière de recevoir une œuvre est complètement conditionnée depuis des années par ces règlements, à savoir d'abord privilégier la vue plutôt qu'un autre sens. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, en fait, d'insister sur la notion de confort, en fait, de visite, alors qu'en fait, un règlement dans une institution muséale relève presque, en fait, du contrôle des corps et de la discipline et de la surveillance.
Tout à fait. Et il y a un chercheur, par exemple, comme Tony Bennett, qui a beaucoup fait de recherches sur ce qu'il appelle le dispositif expositionnaire, montre que, effectivement, qu'est-ce qu'un musée ? Un musée, c'est un dispositif, vraiment au sens de Foucault, qui contrôle, effectivement, est un outil de contrôle des corps, des comportements, un outil régulateur aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de la rencontre entre différentes classes sociales, entre différentes manières de visiter. Un outil aussi qui permet de normer. Et la grande idée au 19e siècle, c'est que le musée devait être aussi un outil éducatif pour les classes laborieuses, pour vraiment les normer ce qu'on considère être comme le bon comportement de visite. Je crois que je l'ai répété effectivement plusieurs fois. Et c'est vrai que ça pose des questions à l'heure actuelle quand on a... Il y a une certaine réflexivité actuellement sur cette question de la normativité du comportement, du bien-être au musée, de ce qu'on appelle aussi l'inclusivité au musée. Et cette inclusivité, elle concerne pas que certaines catégories de publics, les publics loin de la culture ou les publics en situation de handicap. Elle concerne aussi, plus largement nos manières de visiter, c'est-à-dire vraiment comment on peut imaginer des manières plurielles de visiter. Et dans ces manières plurielles, la photographie, évidemment, fait partie de cette pluralité de pratiques de visite dont le musée tient compte ou pas.
Clic-clac, il ne sera plus possible de photographier la Joconde au musée du Louvre. La règle vaut pour les œuvres exposées dans les salles les plus fréquentées par le public, c'est-à-dire la galerie Apollon et toutes les salles de peinture du premier étage. La fréquentation en hausse du musée pose un problème de circulation autour des œuvres pour éviter les embouteillages. Vous n'aurez plus qu'une solution, photographier Mona Lisa dans votre tête.
Le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
depuis le début de l'année au Musée national d'art moderne. Toujours soucieux d'offrir à ses visiteurs la possibilité d'admirer ses collections dans les meilleures conditions possibles, il vient de mettre au point la visite téléguidée de nombreuses salles. Grâce à un système d'écouteurs individuels, écouteurs reliés à des appareils émettant pour chaque salle un texte s'y rapportant, vous pouvez ainsi, en trois langues, avoir des explications très pertinentes sur les œuvres des grands artistes de notre temps. À la différence du Louvre, où ce système existe déjà, au Musée d'art moderne, les textes mettent l'accent sur l'ensemble d'une œuvre plutôt que sur un tableau ou un objet bien défini. Si vous le voulez, faisons comme ces visiteurs le tour de quelques salles. En échange d'un nouveau franc et d'un ticket, l'on a droit à un écouteur de couleurs différentes suivant la langue choisie. Et maintenant, suivons le guide.
En 1967, le musée d'art moderne teste pour la première fois les visites téléguidées. Et puis, on l'a entendu juste avant, vous en aviez parlé, Sébastien Appiotti, l'interdiction du Louvre en 2005 de prendre des photos dans certains secteurs du musée. Alors, cette histoire de la photo ou de l'accompagnement dans les musées est une histoire de contradiction. D'un côté, on a de l'assouplissement, de l'accompagnement, de la participation. Et d'un autre côté, on a une régulation et presque une contrainte exercée sur la manière dont on va pouvoir circuler, s'approprier, regarder une œuvre. Sébastien Appiotti.
Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement une inquiétude toujours des professionnels de différents services qui composent un musée, c'est-à-dire est-ce que mon exposition va être bien comprise, est-ce qu'effectivement le sens que je donne à un parcours permanent ou à une exposition temporaire va être appréhendé comme il faut par mes publics. Et donc en fait cette idée aussi de guider le regard, de cadrer le regard, mais aussi de cadrer l'interprétation qu'on peut faire de la visite va être c'est une obsession ancienne, des guides conférenciers aux visites téléguidées que vous avez rappelées, en passant par les audio guides et plus récemment par l'application mobile jusqu'au casque de réalité virtuelle, alternée, augmentée. Il y a effectivement toujours cette obsession, de guider et de cadrer le regard et l'interprétation. J'en viens même me demander sur cette question de la photo si ça ne cristallise pas autant de questions parce que c'est un peu une pratique qui pendant des années a été un peu une pratique sauvage. C'est-à-dire que font ces visiteurs des photos? Aujourd'hui, ce qui paraît évident, par exemple, un service communication arrive à voir ce qui est posté sur Instagram ou sur Twitter. Mais c'est pas du tout la majorité des pratiques qui sont faites.
Donc c'est comme s'il y avait une part du musée qui échappait en fait justement à ce guide, à cette manière de guider ou de conduire. C'est ça en fait qui peut effectivement à un moment donné inquiéter le musée.
Oui, moi je pense très sincèrement et inversement effectivement, y compris avec des outils technologiques modernes, on observe toujours la même volonté de guider l'interprétation. Je pense par exemple à la Cité du Vin à Bordeaux, où on ne peut pas visiter sans ce qu'on appelle le compagnon de visite, qu'on nous distribue au début de l'exposition, et comme dans l'extrait que vous avez montré, diffuse des contenus, parce qu'on est géolocalisé dans la Cité du Vin, et nous diffuse des contenus sonores en fonction de l'endroit où on est. Et je pense aussi à l'hôtel de la Marine qui a été récemment rénové et ouvert au public à Concorde, il est difficile quand même de comprendre ce qu'on visite parce qu'il y a zéro cartel, zéro trace écrite, en tout cas dans la première partie du parcours, sans visiter avec un casque qui s'appelle le confident. Et donc on a toujours cette voix, cette petite voix à l'oreille, le nom est bien trouvé, qui effectivement essaie de nous confier la bonne interprétation à avoir de ce qu'on est en train de visiter.
Alors voilà, c'est la question que je voulais poser parce que cette notion de guide, elle est hyper complexe. C'est-à-dire que guide, ça semble assez simple a priori. C'est-à-dire que quelqu'un va nous guider sur le bon chemin. Reste encore à savoir comment définir ce bon chemin. Est-ce qu'en fait, on a peur que le public d'un musée se trompe d'interprétation? Est-ce qu'on a envie de le guider pour aller vers une interprétation qui convient à la vision d'un certain commissaire d'exposition, à un certain directeur de musée, ou alors à une certaine vision de l'histoire qui est déployée dans une exposition à un moment donné? Qu'est-ce qu'il faut entendre par guide, en fait? C'est guide esthétique, guide un peu idéologique, guide politique même. Comment on peut définir ce guide?
Alors déjà, peut-être moi en situant l'endroit d'où je parle, comme ça aidera les auditeurs à comprendre quel est mon point de vue. Moi j'aime beaucoup Umberto Eco et sa théorie de l'œuvre ouverte, et je considère finalement que quand on est face à une œuvre, il y a de multiples manières d'appréhender, d'interpréter, de regarder par son prisme, hein, tel ou tel prisme effectivement, l'œuvre, et de la recevoir, on va dire. D'ailleurs, une forme de réception qui n'est pas forcément celle qui peut être anticipée ou conçue par l'artiste lui-même. Ça, c'est mon point de vue. Ensuite, moi, ce que j'ai observé et ce que j'en pense dans les différentes institutions où je suis allé, c'est qu'effectivement, une exposition, un musée, un parcours permanent, c'est le fruit de négociations, c'est le fruit de tensions, c'est le fruit aussi de compromis, hein, entre des visions du musée. C'est aussi le reflet de qui finance. Qui est le financeur? Qui paye les salaires à la fin du mois? Est-ce que c'est du privé?
Du mécénat?
Est-ce que c'est du mécénat? Auquel cas, quelle place on accorde aux mécènes? Est-ce que le logo, on le met en début d'exposition? Est-ce que c'est un dispositif dans l'exposition? Où on voit en gros, effectivement, est-ce qu'on donne un nom de salle aux mécènes, par exemple? Enfin, ce genre de choses. Et puis, évidemment, l'importance, puisque je parlais de qui paye, l'importance des tutelles politiques. Effectivement, ce que l'on peut dire ou pas, et ce que l'on donne à transmettre ou pas, l'importance du politique est, me semble majeure. Oui.
Donc là, on est sur des notions, vous appelez ça dans votre livre, de grammaire de production. C'est-à-dire, c'est la manière dont l'exposition va être un vecteur pour appréhender un contenu de telle ou telle manière. Donc, on voit bien que cette appréhension, elle ne va pas être neutre. Mais il y a aussi ce que vous appelez les grammaires de reconnaissance. Alors là, les grammaires de reconnaissance, c'est du côté du public. Public qui est photographe ou non photographe. Et là, on va revenir à la question de cette émission. Vous avez dit au début de l'émission, Sébastien Appiotti, qu'on pouvait faire des photos d'œuvres d'art par souci de reconnaissance. On a reconnu telle œuvre, donc, clac, on prend une photo, c'est le symbole de cette reconnaissance. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par cette notion de reconnaissance? Est-ce que ça veut dire qu'on doit forcément acter le fait de reconnaître une œuvre? Est-ce que reconnaître une œuvre, ça veut dire forcément, en fait, bien la regarder, ou la regarder, la juger? Est-ce que cette médiation de l'appareil photo est forcément nécessaire pour cet acte de reconnaissance, qui est une manière de s'approprier l'œuvre? Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à demander, est-ce qu'on doit forcément s'approprier une œuvre pour se dire qu'on l'a bien vue? Bon, j'ai posé plein de questions.
Alors, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Déjà, en répondant par la dernière, effectivement, pour moi, et quand on discute avec les publics, il y a une pluralité, on va dire déjà de manière de visiter. Visiter, ça peut être aussi s'approprier le lieu. On vient pour visiter le musée, sans forcément prêter grande attention aux œuvres. Moi, j'ai beaucoup discuté avec des publics le week-end, ça me faisait penser, moi, enfant, quand j'allais avec mes parents dans la galerie commerciale le samedi, je voyais des visiteurs pareils, qui n'étaient pas forcément là pour voir l'exposition, mais qui étaient là pour passer du temps, être entourés des personnes qu'ils aiment, discuter vraiment de sujets variés. Et c'est une forme tout aussi légitime. Il n'y a pas que des formes de visite, on va dire, sérieuses ou érudites de l'exposition.
Vous voulez dire que c'est aussi un lieu de sociabilité, indépendamment de ce qui est exposé?
C'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu de discussion. Et d'ailleurs, certains musées l'ont bien compris. Je parlais du bien-être tout à l'heure. l'importance de mettre des assises dans l'exposition, hein, des bancs, des fauteuils, parfois même des choses très confortables. Il y a même des musées où il y a des endroits où on peut s'allonger, par exemple. Hein, j'avais visité un musée comme ça à Washington, à la Smithsonian Renwick Gallery. Effectivement, sur cette question de la reconnaissance, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, je dirais le sens littéral de la reconnaissance, effectivement, que j'ai décrit tout à l'heure. On reconnaît médiatiquement une œuvre, ou on reconnaît que c'est un chef-d'œuvre, donc on va la prendre en photo. Et puis, plus largement, c'est-à-dire que la grammaire de reconnaissance, hein, c'est un concept d'Eliseo Vérone, qui, en fait, indique la manière dont nous, en tant que récepteurs, on arrive à décoder ou pas les intentions d'un concepteur. Alors, par exemple, ça peut être autour d'un média, hein, une série, un film, une émission de radio, comme aujourd'hui. Et en l'occurrence, nous, ce qui m'intéresse, c'est comment un visiteur décode une exposition. Et j'essaie d'étudier, moi, dans mes recherches, en tout cas, quels sont les écarts potentiels qui existent entre la manière dont un objet est investi de sens, par exemple une exposition, une manière de visiter, et d'autre part la manière dont c'est décrypté, reçu par des publics. Et souvent, et c'est ça qui est intéressant, sinon je servirais à pas grand-chose en tant qu'enseignant-chercheur, il y a souvent des décalages énormes, évidemment, et des jeux aussi de stéréotypie sur la manière dont on se représente les publics. Voilà, donc un public en 2023, ça doit forcément être un public disruptif. Il a envie de participer, d'être créatif, de pas s'ennuyer dans l'exposition.
D'être dans l'immersion,
voilà, en allant par exemple à l'atelier des Lumières, où il a envie de dispositifs numériques, ou alors on va dire il nous faut des jeunes, donc on va mettre des dispositifs numériques, alors qu'en fait, pas forcément.
Et est-ce que ça marche d'ailleurs en fait ? Parce que ça semble presque tellement, c'est-à-dire que maintenant on l'a dit en fait, c'est l'histoire du musée, de la visite du musée, c'est une histoire faite d'assouplissement, d'interdiction et en fait de régulation. Et maintenant avec la charte tous photographes, on voit bien qu'on est encouragé, même presque ordonné en fait à partager, à prendre des photos, ce qui semble contre-intuitif par rapport à l'idée qu'on a intériorisée d'interdiction de photos. Cette injonction à prendre des photos, est-ce que c'est productif ? Moi, ça ne me donne pas envie de prendre des photos. Je ne suis pas l'attachée de communication d'un musée.
Alors, là, il faut bien différencier deux choses. C'est-à-dire déjà, la charte tous photographes, quand on interroge les visiteurs, ils ne la connaissent pas. Donc, là, c'est clair et net, ils ne la connaissent pas. Elle a surtout eu, cette charte, eu un effet en interne. C'est-à-dire pour négocier en interne certains services, certaines personnes qui ont dit « Regardez, le ministère a sorti une charte, ça serait bien qu'on se mette à la page », entre guillemets. D'autre part, effectivement, ce qu'on observe depuis une dizaine d'années, c'est que je parlais de changement de paradigme tout à l'heure, on est passé d'un régime à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'institutions culturelles et patrimoniales qui aujourd'hui incitent littéralement les visiteurs à faire des photos. Alors, ça peut passer par une signalétique, on va dire, injonctive. La photographie est encouragée. Hein, puis à côté, avec des logos de réseaux sociaux.
Des hashtags.
Partagez votre expérience de visite avec hashtag et puis le nom de l'exposition. Ça peut passer aussi par des formes anciennes qui sont réinvesties. Je pense aux pastettes, par exemple. Oui, pastette Louis XIV, voilà. Ah oui. Donc des choses où vous êtes effectivement, c'est des formes anciennes de mise en scène de soi ou de sa famille qui sont réinvesties, qui ont une nouvelle jeunesse avec les réseaux sociaux. Et effectivement, se pose la question de est-ce que moi j'ai vraiment envie de participer à ça en tant que public ? Alors là-dessus, moi j'aurais deux réponses à apporter. Ce qui est certain, c'est que les pratiques photographiques dans l'exposition et leur partage sont des pratiques qui sont importantes. Ça peut aller de plusieurs dizaines de photographies pour une exposition à plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers. Et évidemment, cette matière-là, on va dire, elle a bien été saisie par un certain nombre de concepteurs d'exposition, scénographes ou autres, qui accorde de plus en plus d'importance à la photogénie des espaces d'exposition. Par exemple, dans le fait de créer des espaces dédiés à la pratique photo ou dans le fait d'installer des miroirs dans certaines salles. Ce qui était le cas dans l'exposition Mugler couturissime au MAD l'année dernière, où il y avait une salle miroir qui était vraiment un spot à selfie pour à peu près la majorité des visiteurs. Et ici se pose à nouveau la question de l'impensé. C'est-à-dire que les visiteurs, à nouveau, quand on discute avec eux, alors peut-être pour vous et moi et certaines personnes qui nous écoutent, on va se dire que la ficelle, elle est un peu grosse. C'est-à-dire, bah oui, le musée nous fait travailler, il veut qu'on participe à sa communication numérique. Mais en réalité, la plupart des visiteurs n'arrivent pas à le conscientiser. Les visiteurs, même souvent, n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils photographient ou pourquoi ils le photographient. Moi, souvent, ils me disent « Mais je ne comprends pas pourquoi vous vous intéressez à mes photos, elles sont moches. Elles n'ont rien d'artistique. » Alors que pour un chercheur, et en l'occurrence moi, les photos moches, c'est vraiment mon gagne-pain quotidien. Donc, les photos de nouilles un peu refroidies ou les photos d'un tableau de la Joconde mal cadrée, pour moi, c'est là où on peut creuser, co-interpréter avec le visiteur ou l'enquêté. Et donc, cette question-là de, finalement, est-ce que quand on fait une photo au musée, qu'on la partage sur un réseau social, est-ce qu'on ne participe pas, finalement, de la communication de l'institution? C'est pour moi une question qui devrait être plus clairement posée. De même que, est-ce que c'est le rôle d'un musée, vraiment d'un point de vue éthique, que de servir vraiment de courroie de distribution ou de relais, hein, de réseaux sociaux, de géants du numérique comme Meta, Facebook, Instagram, pardon,
ouais.
Snapchat ou TikTok. Est-ce que c'est le rôle vraiment d'une institution fondée sur qui reçoit des subsides publics, de se faire la courroie de transmission d'injonctions à photographier et à publiciser sans arrêt son quotidien sur les réseaux sociaux? Moi, c'est une vraie question que je me pose.
Mais vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas en train de dire c'est grave, parce qu'on en revient en fait à cette question de la photo là, et à la question même en fait plus largement de l'image. C'est-à-dire le fait de faire des images à l'infini dans le but qu'elles soient vues et non pas stockées là dans nos téléphones ou dans nos ordinateurs, c'est tout autre chose, c'est-à-dire qu'elles deviennent publiques et donc presque des publicités. Et là, ça interroge sur le rôle, l'usage, le rôle ou la fonction, en fait, qu'on leur oblige d'avoir.
Tout à fait. Et d'autant plus qu'en fait, ce rôle, il n'est jamais précisé. Si, à la limite, c'était précisé, le musée X ou Y dit faites une photo, cela participe de notre communication. C'est, par exemple, une forme de micro-mécénat. Aidez-nous. Voilà. Comme c'est le cas, par exemple, quand tel ou tel musée appelle ses mécènes ou la Société des Amis... ça serait quelque chose de tout à fait entendable. Sauf que ce n'est... En fait, à nouveau, c'est un impensé. Ce n'est jamais précisé. Et donc, moi, ça m'interroge. Ça m'interroge.
Qu'est-ce qui vous interroge plus précisément? Est-ce que c'est le fait que, finalement, les œuvres d'art qu'on a tant sacralisées deviennent maintenant, en fait, sont ravalées à un rang presque accessoire? C'est le fait qu'on ne regarde plus que des images et pas les œuvres en tant que telles? Est-ce que c'est le fait que le musée, finalement, qui se donnait comme une institution patrimoniale, devienne en fait un lieu de médiatisation et de médias et de publicité?
Alors, je dirais que c'est plutôt la dernière, hypothèse. Ce qui, moi, m'interroge, en fait, c'est l'absence de recul réflexif de la plupart des musées, je ne dis pas tous, hein, sur cette question-là. Et justement, inversement, est-ce que ça ne serait pas le rôle du musée que de vraiment réfléchir sur ce contexte dans lequel on est de surproduction et de surconsommation d'images au quotidien? Est-ce que ça ne serait pas le rôle du musée, par exemple, de faire des ateliers de pratique photographique, puisqu'on on a parlé à de nombreuses reprises de...
Vous voulez dire apprendre à bien photographier la Joconde?
Pourquoi pas? Mais effectivement, c'est-à-dire, est-ce que grosso modo, il est acceptable, et pour moi la réponse est non, mais je pense qu'on l'aura compris, de réduire la photographie et les photographies que font les visiteurs, après tout ce que j'ai dit, et la diversité qui m'a été donnée de voir, aux seules propriétés communicationnelles et publicitaires de l'image. Je veux dire, il y a plein d'autres manières d'envisager les photographies de visiteurs. Hein, les photographies de visiteurs, ça peut être des archives de la vie du musée, par exemple. Ça peut être aussi... Le prolongement d'une exposition. On peut aussi archiver, par exemple, l'exposition, mais on pourrait aussi archiver les photographies qui sont faites par les visiteurs pour les générations futures. Hein, c'est qu'ils travailleront sur les telle ou telle exposition. On pourrait aussi se dire, et certains musées de société en France à l'international le font, que ça peut aussi enrichir les collections. Hein, on peut faire des collectes de photographies, par exemple. Il y a eu beaucoup d'archives, de centres d'archives pendant le Covid, qui ont fait des collectes de photos autour du confinement. Mm-hmm. Donc, en fait, moi, c'est juste ça que je dis. C'est-à-dire, moi, je ne me résous pas en fait, au fait qu'on réduise les images qui sont faites par les visiteurs, dans toute leur diversité, à leur seul usage communicationnel.
Merci beaucoup Sébastien Appiotti d'avoir répondu à cette question. Prendre des photos au musée, c'est d'ailleurs le titre de votre livre, sous-titre « Quand les visiteurs gardent l'œil sur l'objectif », c'est disponible aux éditions MKF. Grand merci à vous.
Merci.
Respect on my check. Pay me in equity. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. He got a bad chick. We live in lavish, lavish. I get expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to roll with me. He wanna be with me. He wanna give me that vitamin D. Ice ornaments. Ice style tournaments. You ain't on of this. Don't think they on of this. But I'm a jet. Shut down Khalid.
Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand et Laure Dallest. Réalisation Louise André, prise de son Ruben Carmazine et Florent Bujon. On se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram et bien sûr sur le site de France Culture, à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.